Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Le psaume 34 et le verset 5 à 8. Alors voilà ce que nous avons devant les yeux. C'est un psaume de David, hein, on l'a remarqué. Et David dit ceci: « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. » Et le verset qui nous intéresse ce soir: « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous allons faire une autre lecture, simplement un verset, et puis ensuite nous reviendrons sur ce texte et nous essaierons de commenter l'ensemble de ce chapitre. Alors, c'est dans le livre de Daniel, au chapitre 6 et verset 27. Daniel 6, 27, et voilà ce que nous découvrons. C'est lui, c'est Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Voilà pour notre situation. C'est l'illustration à travers la formulation de ce principe que nous avons eu dans le livre des psaumes. L'ange de l'Éternel veille, et il veille particulièrement pour ceux qui font confiance à Dieu, ceux qui s'attendent à lui, et particulièrement ceux qui traversent des moments périlleux, qui sont en péril, en danger. Et c'est l'illustration à travers ce verset que nous connaissons tous. On le cite de mémoire spontanément. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et c'est l'illustration du secours providentiel de Dieu, quelles que soient les conditions et quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés. C'était vrai pour David, qui avait certainement fait l'expérience, parce que quand il a écrit ça dans le psaume 34, c'est que certainement, plus d'une fois, il a dû certainement expérimenter ce que pouvait être mille et un dangers pour sa vie, avant d'être roi et après être roi. Et il a certainement, crié à Dieu plus d'une fois, puisque ses psaumes en témoignent, combien il a vu la main de Dieu le délivrer, le sauver, d'une manière miraculeuse. Et je pense que ça demeure aussi pour nous. Quand on lit la Bible, on le voit auprès de pas mal d'hommes qui apparaissent dans les Écritures saintes. Dans le livre du Nouveau Testament, moi je pense à Paul en particulier, quand il nous dit et nous raconte un peu en abrégé toutes les péripéties de sa vie dans 2 Corinthiens à la fin de cette lettre, quand il dit qu'il est en péril, qu'il a été menacé de ceci, de cela, etc., etc. Je pense que c'est probablement lui qui était juif et qui devait connaître l'Écriture, il devait savoir simplement ce que ça voulait dire, que quand Dieu campe autour de nous pour nous arracher, tous les dangers. Et puis, je pense que ça demeure également, parce que si c'était vrai pour David, si c'était vrai pour les hommes du Nouveau Testament, dit Paul, c'est aussi pour nous, où nous voyons, comment Dieu se manifeste d'une manière providentielle, instantanée, lorsque c'est nécessaire dans l'accident, dans la maladie, dans toutes sortes de périls, toutes sortes de menaces sur notre vie, et combien il écarte le danger de notre vie. C'est une belle parole, hein. Et nous avons lu ensemble, parce que j'ai pris seulement la conclusion, mais quand nous avons trouvé ces paroles, il dira, enfin en tous les cas, c'est le roi des Mèdes, hein, qui dira ça, c'est Darius, hein. C'est lui, c'est Dieu, c'est le Dieu de Daniel, qui délivre et qui sauve, et qui opère des signes et des prodiges, c'est pas n'importe quoi. C'est l'extraordinaire, c'est pas seulement le spectaculaire, mais c'est le surnaturel dans les cieux et sur la terre. Et il dira devant son peuple, devant, parce qu'il est quand même roi, il est empereur, c'est un empire, hein, les Mèdes. Il dira, bien maintenant vous portez la nouvelle partout, dans toute l'étendue de mon empire, et vous dites que c'est le Dieu de David. Mais vous vous rendez compte, pour un païen, c'est pas mal, hein. Que c'est vraiment le Dieu de Daniel, pardon, et de David. C'est le Dieu de David, finalement, qui l'a délivré des lions. Alors on va parler, finalement, eh bien, de ce qui lui est arrivé à un moment donné de sa vie, qui est survenu dans son existence, et on va essayer de décoder un petit peu tout ce que ça veut dire, parce que c'est quand même une drôle d'histoire, cette affaire. On s'aperçoit que plus on était élevé, plus on suscite de la jalousie. Hein, c'est pas d'aujourd'hui, ça, c'est vraiment la vieille histoire. Mais, quoi qu'il en soit, un homme comme Daniel, qui est réputé pour avoir véritablement une foi, non pas extraordinaire, mais la foi en Dieu, eh bien, on va voir comment Dieu s'y est pris pour, eh bien, déjouer les menaces et puis le retirer, eh bien, de ce que l'on enseigne souvent aux enfants, eh bien, Daniel dans la fosse aux lions. Alors, on va en parler. C'est une étonnante histoire que celle de Daniel. Il apparaît là au cœur de notre Bible et il se trouve dans une situation qui est un véritable bouleversement pour toute la région. Hein, on le sait, et la question que nous pouvons nous poser, mais qui est ce personnage? Premièrement, c'est un prophète. Enfin, on a dit prophète après, mais un homme qui a eu la vision de l'instant, mais qui a eu aussi une projection, parce que son livre, le livre de Daniel, est, on pourrait dire que c'est l'Apocalypse avant, l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, si vous voulez. Et il va avoir une révélation extraordinaire de la libération d'abord de son peuple de l'esclavage de Babylone, et puis c'est une projection finalement jusqu'à notre temps aujourd'hui. Et le combat spirituel, la foi qui persévère, hein, à travers toutes sortes de menaces et toutes sortes d'oppositions terribles, hein, et ça c'est Daniel, hein. On sait qu'il est un jeune juif, il a à peine 20 ans, quand il est emmené en déportation, non pas par Darius, mais par le roi de Babylone, des années auparavant. Ouais, c'est un adolescent, et il est de race royale. Parmi tout le peuple, parce que ça va être des milliers et des milliers de gens qui vont partir en esclavage, qui vont partir en déportation à Babylone, sous, finalement, eh bien, la victoire de ce roi Nebuchadnezzar, hein, Nabucodonosor pour certains, c'est le même. Hein. Et nous voyons que parmi ces milliers, ces centaines de milliers de juifs qui vont partir en déportation, il y a quatre jeunes gens, dont Daniel. Quatre jeunes gens qui sont de race royale. Et le roi Nebuchadnezzar va les prendre dans son palais. Alors on connaît l'histoire, le début, etc., etc. Et c'est là où Daniel va avoir une première vision. Et dans cette vision, il va révéler une grande statue, les empires à venir. Hein, y compris Babylone, les Mèdes, Alexandre le Grand, et puis l'Empire romain. Donc, il va voir ça, et tout va s'effondrer à un moment donné pour montrer que, eh bien, l'hégémonie des hommes, quelle que soit l'importance ou la puissance des empires, tout s'écroule. Ce n'est pas durable. Ça vient, ça passe, ça disparaît. Un empire est remplacé par un autre, c'est ce qui va se passer. Parce que quand Daniel, excusez-moi, vous corrigez de vous-même, mais quand Daniel va voir la vision, rien n'était fait encore. Lui va voir la vision, et ensuite, c'est au cours des siècles, pendant des centaines et des centaines d'années que les choses vont se dérouler. Ce qui montre bien toute l'authenticité de la parole de Dieu. Tout ce qu'il peut y avoir de véracité dans la parole de Dieu. Alors, on l'a dit, c'est un jeune juif, il est emmené comme ça, et il va avoir une postérité, une bénédiction inouïe, une prospérité inouïe, dans des temps extrêmement difficiles. On l'a dit, il va être fait prisonnier par le roi de Babylone. Le roi de Babylone va être renversé par le roi des Mèdes qui s'appelle Darius, chose que l'histoire confirme également. Et autant il a été dans le palais de Nebuchadnezzar, il va être repris dans le palais de Darius, c'est-à-dire qu'il va avoir une place. Et on va découvrir la place qu'il a pu avoir. Donc, il est déporté, et son ascension, eh bien, va s'élever de plus en plus, hein, sur cet empire, sur ce palais, dans le palais royal. Et il est nommé par le roi Darius, parmi trois autres, hein, qui ne sont pas des juifs, on va les voir, qui ne sont pas des juifs, mais chefs des satrapes, c'est-à-dire des gouverneurs de provinces de l'Empire. C'est pas n'importe quoi, vous vous rendez compte, imaginez, hein, ce sont presque des vice-rois en quelque sorte. Et Daniel va se trouver, va être remarqué, va se trouver, eh bien là, nommé à cette position éminente, et nous voyons que c'est vrai qu'il a une personnalité hors du commun, Daniel. Il y a quelque chose qui le distingue, sa singularité, c'est sa foi d'abord qui va être remarquée par des païens, par le roi, par les rois païens, et puis également dans son intégrité. Alors, si vous voulez, le mieux c'est, j'ai pas lu tout le texte, on va le relire ensemble, hein, au fur et à mesure, et je vais donner quelques mots de commentaire. Alors on va prendre dans le chapitre 6 les trois premiers versets, il dit Darius, le roi dont je vous ai parlé, empereur des Mèdes, hein, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes, qui étaient des gouverneurs, hein, on peut dire, leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume. Ça fait un peu, si vous voulez, mais dans un sens différent, l'histoire de Joseph. Hein. Joseph, lui, passait par la prison. Lui, il est passé par la déportation, mais il s'est retrouvé tout de suite dans le palais. Et là où il est passé, même s'il y a eu un changement de régime, un changement d'empire, ben, il est toujours resté finalement. Et ces deux rois, Nebuchadnezzar ou Darius, ont remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier. Et quand ils ont vu Daniel, ils se sont dit, mais voilà, ça c'est un homme qui, à un moment ou un autre, eh bien, ne règnera peut-être pas sur l'Empire, mais sera véritablement en dessous l'Empereur. Et en raison, finalement, de ce que nous avons dit, remarqué par sa foi, et puis par son intégrité. Avait-il, Darius, entendu parler de ces fameuses visions de Daniel? Vous savez, la vision de la statue, etc., puis il y en a eu d'autres, hein, de toute façon. Alors peut-être qu'il s'est dit, vaut mieux avoir auprès de soi un homme de cette condition, de cette... là, de cette capacité de voir et de connaître l'avenir. Mais toujours est-il que le texte nous dit que c'était un homme avec cette singularité donc tout à fait particulière. Alors, puisqu'il en est ainsi, Daniel va, dès qu'il va être nommé là, hein, vice-roi, on peut dire, on peut le dire de cette manière, il va devoir affronter tout de suite un ouragan de jalousie. D'abord les deux, qui sont ses collègues, qui sont quand même nommés à une position extrêmement élevée, ils vont avoir les yeux sur Daniel et ils vont rivaliser avec lui. Et vous allez voir comment ça va se passer, parce que il ne recule devant rien. Vous savez, le pouvoir et la puissance, ça rend les gens fous. Hein. Quand vous arrivez à un stade où vous regardez les autres en disant, ben voilà, moi je suis sur la montagne, ils sont tous dans la vallée et c'est moi qui est le pouvoir, c'est terrible, hein, c'est terrible. Alors, au verset 4, il nous est simplement dit, « Alors les rois et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. » Ils ont essayé de trouver là toutes sortes de prétextes pour le dire, mais il a fraudé, il a détourné de l'argent, enfin toutes sortes de choses inimaginables. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce que Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Fidèle, ni faute, ni rien de mauvais. Alors ça, c'est ennuyeux. Parce que quand on veut accuser quelqu'un, il faut des preuves. Et quand on n'a pas de preuves, eh bien là, on peut les accusateurs peuvent avancer un peu sur des sables mouvants et vous allez voir comment ça va se terminer. Vous savez comment ça s'est terminé. Mais toujours est-il que c'est dans l'histoire, quoi qu'il en soit. Ils n'ont rien trouvé, ni dans les affaires de gestion de l'Empire, ni même dans sa manière de vivre. Donc, pour nous dire que le bien, le juste bien, le bien que Dieu inspire à des hommes, eh bien dérange toujours. Mais il ne peut déranger que des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui ont une mauvaise conscience, ou des gens qui ont quelque chose à se reprocher, mais qui ne veulent pas qu'on leur reproche, et qui, là, dans leur position, se gardent bien, finalement, eh bien, sont verrouillés, sont scellés à leur place, et des hommes comme Daniel, ça les dérange, parce qu'ils savent que, finalement, voilà, faut suivre. Et si vous suivez pas, vous allez être, naturellement, eh bien, éjectés, tout simplement. On pourrait parler de, comme on le dit aujourd'hui, d'une conspiration, ou plutôt tout simplement d'une stratégie complotiste. On parle beaucoup aujourd'hui, hein, dans le monde, actuellement, ça bruisse un peu de tous les côtés, en disant voilà, mais il y a ceci, il y a cela. Alors on ne sait jamais où est la vérité dans tout ça. Hein, dans le complotisme, on ne sait pas. Mais bon, il y en a certainement quelque part qui tient les ficelles, c'est toujours au profit de quelques-uns et de puissants, hein, de toute façon. Et puis, c'est inique, une chose pareille, vous allez voir, hein, c'est forcément inique. Alors, on va poursuivre. Il nous est dit que ces hommes dirent, se sont concertés entre eux, probablement s'étant mis de leur côté, eh bien, les 120 satrapes, c'est-à-dire ceux qui étaient inférieurs, mais qui étaient quand même des gouverneurs, ils ont dû certainement, eh bien, dire, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare, hein, un coup d'État. Hein. Alors, ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ça, c'est un terrain qui est quand même assez difficile. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, ils ont fait grand bruit, mais on va voir la suite. Ils lui parlèrent ainsi, « Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs des royaumes, du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un avis royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense, écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. » On a compris tout de suite que Darius n'a rien vu dans cette affaire. Il n'a rien vu arriver, et vous avez remarqué que quand ces tumultueux sont arrivés dans le palais, ils avaient déjà prémédité, ils s'étaient donné finalement cette force en disant « Mais les satrapes, les gouverneurs, tous tes serviteurs d'une manière ou d'une autre, tes conseillers, finalement ils sont tous d'accord avec notre démarche. » Alors l'étaient-ils, c'est peut-être pas sûr, mais toujours est-il qu'ils avaient retenu une majorité en pensant qu'avec la majorité, eh bien les choses eh bien pouvaient réussir. Mais il fallait que le roi publie un édit royal. Alors c'est ce qu'on a appelé la loi des Mèdes et des Perses. Quelquefois on le cite comme ça. C'est-à-dire que chez cette civilisation des Mèdes, eh bien, quand un décret était donné, plus personne ne pouvait retirer. Même le roi ne pouvait plus retirer sa parole. C'était comme ça. Tout simplement. C'est quelque chose qui était inéluctable. Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait rien du tout. On avait décrété, on avait scellé, c'était terminé. Quand quelqu'un était condamné à mort, ou qu'un peuple était condamné à mort du temps d'Assuérus, vous connaissez l'histoire, hein, d'Esther, eh ben, il n'y avait rien à faire. C'était comme ça. Et puis, c'était scellé. C'est pour ça que le roi, ça lui a peut-être fait plaisir en disant, tu sais, on a eu une bonne idée. Ça serait bien qu'on fasse quelque chose pour toi. Tu vois, un genre Ramadan, par exemple, 30 jours. Enfin, je dis ça comme ça, mais toujours est-il que, voilà, on va tout simplement, et ça sera en ton honneur, seulement en ton honneur. Nebuchadnezzar était tombé dans le même piège, hein, l'histoire de la statue. Et là, c'est encore son successeur, hein, un autre empereur qui arrive, et il se dit, bah, c'est formidable, j'avais pas pensé qu'on pouvait m'honorer comme ça. Il était déjà, parce que en ce temps-là, quand on était roi, ou quand on était empereur, ou quand on régnait, c'était considéré comme un dieu, hein. Bon, on le voit chez les pharaons, on le voit chez les romains, hein. Un César, c'était pas n'importe qui, hein. Voilà. Et ils sont venus pour essayer de l'amadouer en disant, tu sais, on voudrait tout ton empire, hein. Tous tes grandes et tous tes peuples, parce que c'est pas au singulier, c'est tous tes peuples, nous voudrions t'honorer et te glorifier en faisant, eh bien, finalement, ce genre de démarche, de jeûne, de prière, enfin on peut dire ça comme ça, et pendant 30 jours on a décrété que personne ne te priera, personne ne priera, à l'exception de toi-même, un autre dieu, quel qu'il soit. Et comme c'était un empire, il devait y avoir d'autres dieux naturellement, hein. C'était vraiment un décret, et le décret a été fait, et c'était arrêté, puisqu'il nous est dit là-dessus, le roi David écrivit le décret et la défense, plus rien à faire. Et à ce moment-là, il va se passer une chose qui est terrible. Ils n'ont rien trouvé dans la loi de Dieu, de Daniel. Bah, ils la connaissaient peut-être pas aussi, hein. Parce qu'il faut bien la connaître, hein. Tout le fonctionnement du juif, de sa connaissance de son Dieu. Mais vous savez, ils n'avaient peut-être pas pensé à une chose, Mais quand ils ont fouillé dans la vie spirituelle ou la vie religieuse de Daniel, en prenant la loi de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer de toute manière. Hein. Une épée à deux tranchants qui augure l'adage que nous connaissons, l'arroseur arrosé. Parce qu'on ne se moque pas. C'est pas possible de se servir de Dieu. Ça nous rappelle un souvenir très récent. De jouer la comédie. Je dis ça spontanément, hein, parce que j'avais pas pensé. Hein. Mais de pouvoir faire comme, se servir de la loi de Dieu, alors que finalement, on sait pertinemment qu'on n'en a rien à faire et qu'on veut se servir de ça pour faire du mal. Pour faire du mal. L'arroseur arrosé, se servir de Dieu, c'est à haut risque. Hein. Et je dis ça, c'est pas parce que je l'ai prémédité, c'est parce que ça me vient à l'esprit au moment où je vous le dis. Hein. Ils avaient la pensée de compromettre Daniel. Ils voulaient la tête de Daniel. Daniel était un homme gênant. C'était quelqu'un qui les empêchait de tourner en rond. Oui, ça peut rendre service, mais là, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va lire la suite. Lorsque Daniel sut la conspiration qui se fomentait contre lui, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Imaginez-vous que Daniel ait fait autrement, que quand il a su la chose, parce que il n'était pas nommé en disant « on veut la tête de Daniel devant le roi », non, c'était une démarche qui passait par un recueillement à la prière, nul autre que à un autre Dieu, la prière ne sera adressée qu'à toi seul. Donc, et il savait que Daniel était un homme qui avait une conscience très très forte, très marquée, très élevée du service de son Dieu. Et ça, il ne l'avait certainement pas dit à Darius. Il aurait pu se présenter, puisque il lui a dit à un moment donné, le roi pensait l'établir sur tout son royaume. Imaginez-vous, c'était pas un demi, hein, c'était vraiment un homme qui était considéré. Et dans cette affaire, il aurait pu se précipiter vers le palais en disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Moi, je suis juif, je te sers au roi, je t'honore, je fais le mieux possible, mais c'est quand même pas normal. Mais il y a une chose, que quand on ne peut pas le dire aux hommes, on le dit au Seigneur. Et voilà. Et c'est ce qu'il va faire, puisqu'il nous est simplement rappelé qu'il s'est retiré. Il s'est tourné vers Jérusalem, à la manière certainement dont procédaient les Juifs, hein, pour prier. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Rien n'a changé pour lui. Et pourtant, il était sous le coup de ce décret, qui était un décret, une exécution à terme très rapide, finalement, et bien d'être non seulement évincé, mais d'être mis à mort, hein, parce que c'était comme ça, hein, de toute façon, il n'y avait pas de... La prière comme d'habitude, ça c'est intéressant. Je pense que la prière n'est pas une habitude seulement, c'est pas une routine, parce que si elle perd sa substance de vie et d'inspiration, bon, à ce moment-là, on est peut-être... un bon religieux, un bon chrétien, mais un bon croyant. Mais il y a des millions et des milliers de gens qui prient par habitude. Hein. Mais ça, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de substance dans nos prières. Il faut qu'il y ait véritablement le sel spirituel. Et on a quand même tous les jours, les uns et les autres, matière à trouver finalement des sujets de prière. Hein. Et quand bien même nous serions à court de trouver... Peut-être prier pour ici, prier pour là, prier pour ceci, prier pour cela, prier pas seulement pour nous, mais prier pour les autres. Hein. Bah, vous savez, on a de quoi faire. Hein. On peut y passer 25 heures par jour. Hein. Hein. Mais il y a de quoi faire, ça c'est certain. Mais bon, par-delà tout ce contexte, je crois que Daniel était un homme qui avait ce sens de la prière dans l'esprit. C'est ça, un petit peu, ce que je veux dire, c'était pas les vaines redites, etc., etc. Bien qu'il suivait certainement, là, tout ce qu'il pouvait y avoir de très formaté, très formalisé dans la prière d'un juif. Mais néanmoins, quand ce n'est que ce sont des paroles, et que le cœur n'y est pas, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne va pas plus loin. Et j'aime bien quand il est dit, mais comme d'habitude, il ne change rien. Et pourtant, il sait que de toute façon, il est menacé de mort, et je peux vous dire que ceux qui ont mené cette conspiration, ils ne veulent pas autre chose que la mort de Daniel, hein. C'est pas une demi-mesure, c'est pas même être évincé et puis être mis en prison comme Joseph, etc., mis de côté. Non, c'est la mort. Donc il devait certainement être très embarrassant, hein, la prière comme d'habitude. Et à un moment donné, nous allons voir la suite, ses ennemis le scrutent, ils le guettent. 30 jours, hein. Alors ils avaient dû mettre des espions un peu partout, une fenêtre ouverte, peut-être priait-il à haute voix et puis était-il entendu, on ne sait pas, hein, on peut supposer tout cela, mais ses ennemis le guettent, ils l'épient, et ils vont le dénoncer parce qu'ils ont maintenant les éléments dans le dossier, hein, ils ont les preuves, comme transgresseur du décret impérial. On ne transgresse pas avec un décret. Fut-il, eh bien, celui-ci de Darius, c'était naturellement, eh bien, la peine capitale. Alors, on va lire un peu plus loin. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement. Ce sont des agités, ça fait deux fois qu'on voit l'adverbe, hein. Des excités. Hein. Ils sont pas bien, hein, on le voit. Tumultueusement. Alors, ils ont certainement rentré dans le palais comme une forme de manifestation. On n'en voit plus les manifestations chez nous, hein. Parce que, mais toujours est-il qu'ils ont dû pousser la porte en disant, roi, on veut te voir tout de suite. Ça m'étonnerait que ça soit passé comme ça, mais ils ont fait du bruit. Et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils se sont introduits chez lui, et là, ils avaient la preuve. Puis ils se présentèrent devant leur roi, et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, voilà la dénonciation, n'a tenu aucun compte de toi, il te méprise. C'est une véritablement offense, lèse-majesté. Il n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni à la défense que tu as écrite, et il a fait, et il fait sa prière trois fois par jour. » Wow, ça commence à devenir un peu sérieux. Premièrement, la sentence, c'est jeter dans la fosse au lion. Voilà. Et puis, quand on voit un petit peu ce qui est dit, est-ce que un homme serait-il condamné parce qu'il prie? Eh bien, moi, je voudrais vous dire, oui, c'était d'actualité du temps de Daniel, ça a été d'actualité à travers toute l'histoire de l'Église, et c'est d'actualité encore aujourd'hui, si l'on s'en réfère aux persécutions qui existent dans les milieux des croyants, des chrétiens, nés de nouveau, et parce que seulement ils prient Dieu, eh bien, on les met en prison, on les exécute. Rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est ce que nous dit le livre de l'Ecclésiaste, naturellement. La sentence, jetée dans la fosse au lion. Imaginez-vous, hein, ce que ça peut être. C'est redoutable, hein. Ils avaient des mœurs à l'époque, hein. Mais remarquez, la cruauté et l'inspiration qui vient de la jalousie, ça peut être terrible aussi. Hein. Vous savez, à travers, il n'y a que depuis quelques décennies, hein, que les choses se sont améliorées. Mais vous savez, la guillotine, c'était pas terrible non plus, hein. C'était terrible, hein. Et il y en a eu, hein, des milliers de gens. Et encore, quand on va un peu plus loin dans l'histoire, même de notre pays, de notre Europe, quand on brûlait les gens, quand on les mettait sous la roue, quand on les écartelait avec quatre chevaux et que vous trouviez en cinq morceaux, le corps et puis les membres écartelés, c'était terrible. Couler du plomb dans les blessures. Enfin, bon, je voudrais pas vous effrayer, mais c'est quand même l'histoire, ça. Hein. Et on le faisait particulièrement aux chrétiens. Hein. C'est terrible. Bénissons le Seigneur de vivre dans une époque où, peut-être ça changeait. Mais ça changeait, faut pas aller plus de 80 ans en arrière pour savoir que c'était aussi épouvantable, infernal. Donc condamné à mort pour cause de prière. Et là, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un décret impérial, vous avez des gens qui quelque part... Mais il était chez lui, Daniel, il pouvait faire ce qu'il voulait, non? Moi, je me suis quelquefois, ça m'arrive d'y penser, je me dis, mais le jour où les églises sont interdites, ça peut arriver, hein. Vous savez, pendant la révocation des Lilliers de Nantes, le roi Louis XIV a fait démolir, après tant de persécutions, tous les temples des Huguenots. Hein. Il n'y en avait plus un seul qui restait par terre. Hein. Vous vous rendez compte? Parce qu'il pensait que finalement, le protestantisme, la réforme était éradiquée du royaume de France. Mais heureusement, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Parce que ces gens, ils nous ont quand même légué la parole de Dieu et la Bible, et voilà. Et on s'aperçoit que dans tout cela, eh bien, ce sont des choses qui sont terribles et abominables. Rien n'est jamais fini. Ben vous savez, si un jour on n'a plus voilà nos lieux, ben vous savez, c'est pas l'Église qui sauve. Je suis révolutionnaire. C'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et vous savez, on a fait l'expérience de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir vivre en communauté, de pouvoir vivre dans une Église. Mais si un jour ça nous est prié, si ça nous en sommes privés, ne pensez que le véritable temple, il se trouve là, à l'intérieur de nous-mêmes. On pourra peut-être se retrouver dans nos maisons personnelles, on pourra peut-être faire des réunions de prière dans l'aparté. Mais le plus important, c'est pas de venir et de dire c'est l'Église, l'Église, l'Église. Non, l'Église, elle est là et bénissons d'en avoir une, bénissons de l'entretenir dans l'unité, dans la paix. Mais si elle disparaît, parce que ça peut arriver, c'est pas garanti, hein, vous savez. Eh bien, à ce moment-là, on a encore la parole de Dieu. Si on ne l'a plus en papier, on l'aura au fond de notre cœur. Et Jésus restera toujours notre Sauveur et notre Seigneur. Et rien ne pourra changer. Eh oui, ce sont des réalités. Hein. Ce sont des réalités. Alors, il se passe une chose assez étonnante. C'est les sentiments du roi Darius pour Daniel. C'est bien d'avoir un roi pour ami. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, essayez d'analyser et puis de vous faire quelques petites... d'avoir quelques amis. Ah, ben, y en a qui marchent comme ça, hein, faut le dire. Hein. Bon. En tous les cas, si on prend la suite, on va voir que le roi est consterné de cette situation. Parce que là, il commence à ouvrir les yeux en disant, mais, ah oui, je comprends pourquoi il voulait me rendre honneur. C'était pas pour me rendre honneur à moi, le roi de l'Empire, du royaume de Perse et des Mèdes. Mais c'était simplement pour arriver à leur fin inique et maléfique. Et qu'est-ce que nous lisons par la suite? Alors que le sort de Daniel est scellé d'une manière irrévocable, il nous est dit, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Et quand on voit un peu plus loin le verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On voit les dispositions de ce grand roi. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est lui qui a signé, c'est lui. On lui a extorqué, finalement, et bien là, ce décret. Mais la loi des Mèdes et des Perses voulait que ça aille jusqu'au bout. Tout simplement. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Ça, c'est extraordinaire. C'est de la bouche d'un païen. Ton Dieu. S'il reconnaissait à ce moment-là Darius, que si Daniel priait son Dieu même dans les temps les plus hostiles, les plus difficiles, par-delà et dans le décret, c'est que véritablement le Dieu de Daniel valait la peine, que son serviteur continuait à le louer, à le prier et à l'honorer. Ça valait la peine. Il risquait sa vie, mais il l'a fait pour son Dieu, naturellement. Nous allons voir maintenant l'exécution et son épilogue qui nous donne véritablement la leçon de ce que nous avons vu tout à l'heure. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'épilogue, l'exécution. Allons jusqu'au verset 19. Le roi se leva au point du jour, à l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, quelle confession, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et là, chose curieuse, parce que ça faisait déjà peut-être quelques heures qu'il était dans la fosse, mais de Daniel, il pouvait y rester que finalement quelques os épars, hein, si encore il n'avait pas mangé... l'homme entièrement. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Un homme supposé être mort mangé dans l'estomac des lions, et voilà qui se m'a parlé. Ça, si c'est quand même une drôle de chose, hein, quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a pu intriguer le roi? Il était malheureux de cette histoire. Furieux. Certainement en colère, comme on va le voir d'ici quelques instants. De s'être laissé berner, tromper. Et on s'aperçoit que quand il nous est dit au petit matin, à l'aurore, c'est que premièrement, il a passé une nuit épouvantable et que avant que le soleil se lève, eh bien, il a voulu se rendre compte par lui-même. Un roi ne se déplace pas pour une histoire comme ça. On va pas sur un terrain d'exécution pour voir si le condamné est mort ou vivant, pas du tout. Hein. Donc, il était tourmenté. Il était tourmenté parce que Daniel avait rendu certainement auprès de lui, comme il l'avait fait auprès de Nabucodonosor, eh bien, un témoignage d'excellence. Probablement. Alors, il dira, mais son ange a fermé la gueule des lions. Aucun mal, parce que je suis innocent aux yeux de Dieu, mais je suis innocent et tu le reconnais, parce que si tu es là, roi, c'est que si tu es venu de la première heure pour voir ce qu'il en était advenu de moi et de la condamnation et du décret exécuté, c'est parce que véritablement tu reconnais que il y a de l'innocence dans ma vie et que je suis tout simplement victime, eh bien, d'une conspiration. Je n'ai rien fait de mauvais, dira-t-il. Ouais, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux et autour de ceux qui le craignent. Ça, c'est une vérité. Et ça, je pense que c'est vraiment un verset que nous ne devons jamais oublier. Et il les arrache au danger. Comment cela peut-il se faire? C'est ce que nous allons voir. Comment une chose inouïe? Je m'imagine ce que ça peut être. Alors les lions, qu'est-ce que ça pouvait être? Il ne devait pas y en avoir qu'un, un pauvre lion qui se baladait au fond d'une fosse. Non, il devait y avoir certainement toute une horde de ces fauves. Et puis vous savez, quand il y avait des exécutions, ça devait arriver assez souvent. Hein. Leur nourriture, c'était de la nourriture humaine. Pas faire d'illusion, hein, ça devait y aller. Hein. Mais on les laissait jeûner avant pour qu'ils cassent les os. Je n'allais pas dire la croûte, mais au moins qu'ils cassent les os. Hein. Et vous vous rendez compte, le pauvre était balancé, mais remarquez, ça ne durait pas longtemps. Hein. Mais c'est terrible. Déjà un lion, je sais pas, vous en avez vu, vous savez ce que c'est. Il n'y en a pas autour de chez vous? Non? Je voudrais vous hanter votre nuit. Des lions, des loups et toutes sortes de bébêtes comme ça, hein, c'est terrible. Hein. Eh bien, c'est quand même, on voit, vous avez certainement regardé des émissions animalières, vous avez vu comment ils font? C'est terrible, ils se tapissent à un moment donné, là, ils n'avaient pas besoin parce que ça leur tombait directement du ciel, de toute manière. Mais c'est redoutable. Puis quand on voit la dentition aussi, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Alors, comment cela peut-il se faire? Je pense que la réponse, nous l'avons vue dimanche dernier, dans le culte, quand il était question des dons de l'esprit, des dons spirituels. Et j'aimerais y revenir simplement sur la nature de comment cela peut-il se faire. Et ça dépasse la compréhension. Parce que il y a des réalités matérielles, physiques, humaines. Tout ce qu'il y a autour de nous, ben, nous l'appréhendons parce que nous avons donné un nom et nous savons à quoi ça sert et les dangers qu'ils peuvent comporter et puis le bienfait que ça peut nous donner aussi dans tout notre environnement. Mais dans une situation où il y a un danger tel qui était celui de Daniel, comment les choses peuvent-elles se faire? Alors ça ne viendra pas des hommes. Il y avait déjà le concours de la bienveillance du roi. C'était déjà pas mal, mais il ne pouvait pas faire plus. Puisque de toute façon, c'est lui qui avait sollicité, c'est pas lui qui avait pas sollicité, il avait été sollicité, il avait signé le décret irrévocable. Ça, mais néanmoins, c'est pas parce que finalement les choses avaient été mises en place qu'il a été profondément troublé et malheureux. Hein. Il a été consterné de ce qui s'est passé. Mais il ne pouvait pas aller plus loin. Maintenant, quand ça ne peut pas venir des hommes, pour un croyant, ça vient de Dieu. Et il y a naturellement ce que l'on appelle les dons de l'esprit. Dimanche dernier, on a parlé des dons, et j'ai donné deux ou trois exemples, un exemple pour chacun, dans le Nouveau Testament, puisque la Pentecôte, c'est tout à fait d'actualité encore aujourd'hui, ce sont des réalités. Mais en ce qui concerne l'Ancien Testament, nous avons une profusion d'actes de l'Esprit, de manifestations de l'Esprit. Et il y a le don de la foi, on va réexpliquer, et le don du miracle. Il y a cette juxtaposition, il y a cette concomitance entre ce don de la foi chez Daniel et le don du miracle, qui est le résultat finalement de la foi, le don du miracle. Le verset 23 nous dit ceci. Alors le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse, Daniel fut retiré de la fosse, donc vivant, hein, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il avait eu confiance en son Dieu. Ouais. C'est ce qu'il nous est dit dans un autre passage, que celui qui met sa confiance en Dieu, eh bien, il trouvera des chemins tout tracés. Ouais. Des chemins tout tracés. Le premier aspect de ces manifestations de cette puissance divine qui se manifeste et qui se met en action pour le salut, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous arracher au danger, au péril, que ce soit un accident de la route, on l'a souvent entendu ça, hein, même parmi nous, hein, que ce soit peut-être de se relever d'une maladie qui était déclarée, eh bien, la mortelle, ou dans d'autres circonstances, dans le cas qui nous intéresse, c'est le don de foi qui était le propre de Daniel, mais c'est pas le don de foi qui amène au salut, et ce n'est pas le fruit foi. Quand il est dit, à un moment donné, dans les fruits de l'esprit, la foi qui est la fidélité, si vous voulez, c'est traduit comme ça, hein, la fidélité, la foi, c'est pas ça. C'est une manifestation immédiate, on pourrait dire dans l'instant T, que Dieu nous donne dans une situation impossible, une situation où il n'y a rien à faire, et qu'il a fait surgir dans le cœur du croyant, eh bien, ce que l'on peut appeler cette capacité surnaturelle, au-dessus de la nature, de croire sans douter. Qu'une chose va se produire, alors que tout est contraire, humainement parlant. Et vous mettez un homme dans une fosse au lion, ben, si ça a été fait comme ça, c'est parce que on veut se débarrasser de quelqu'un et c'est irrémédiable, encore une fois de plus, on peut le dire. Et que la chose va se réaliser, et je voudrais le souligner pour bien montrer la différence entre le miracle et la foi, et la chose va se réaliser pour Daniel, parce que Daniel, quand il va être précipité, les lions peut-être là vont s'apprêter à surgir sur lui, mais ils vont s'arrêter. Et on peut... Dans le don de la foi, il y a cette caractéristique, c'est que Daniel est resté en paix. Il ne s'est pas agité, il n'a pas essayé de grimper au mur, il n'a pas essayé de se mettre dans un petit coin, non, il ne pouvait pas échapper. Ça s'est passé dans le silence, il n'a pas crié. Et dans une sérénité totale. Vous ajoutez à cette sérénité la paix, le silence, la tranquillité intérieure, et là vous avez le don de foi. Il n'est pas spectaculaire, mais c'est une réalité. Puisqu'il nous est dit qu'il n'y avait ni blessure, ni égratignure, il n'y avait rien du tout. Ça veut dire qu'il n'a pas eu à combattre, il n'a pas eu à faire comme David en prenant le lion ou l'ours et puis le déchirer, etc. Voilà, hein, le retrousser, pas du tout. Il est resté tout simplement comme ça. Il est tombé au milieu des lions, les lions se sont arrêtés et lui est resté dans la paix. Et c'est ça justement, cette conviction supérieure, cette conviction, cette certitude où nous ne doutons pas que la chose va se produire et qu'elle va arriver. Nous faisons ce genre d'expérience. Hein. Moi, personnellement, je l'ai fait rarement, mais je l'ai fait. Et je peux vous dire que c'est quelque chose ça dépasse la raison. Hein. Dans une situation où j'ai vu vraiment Dieu intervenir et de dire, mais je comprends pas, et on n'a pas besoin de comprendre. Mais c'est se caractérise par cette tranquillité, cette positivité où nous n'avons rien à faire, et que là, alors que nous pourrions nous attendre au feu, ou à la gueule des lions, ou à toutes sortes de choses, et rien ne se passe. C'est comme s'il y avait l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, de ceux qui ont confiance et il les arrache au danger. Ça, c'est le don surnaturel, il n'est pas spectaculaire, mais il se manifeste par un repos et une grande foi. Maintenant, il y a l'autre, qui est la conséquence, notre don, qui est la conséquence de cette foi, et c'est Dieu qui agit. Ça permet de fermer la gueule des lions, et je l'ai dit, je le répète, on ne trouvera aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Il y a des situations dans notre vie qui nous dépassent, et on se dit, je suis perdu. Sans une intervention de Dieu, sans véritablement le secours de Dieu, c'est terminé. Mais Dieu agit en notre faveur. Eh oui, parce que nous avons confiance en lui, pour vivre ou pour mourir. Mais quand Dieu a décrété que nous allions vivre, parce que notre histoire n'est pas finie, l'histoire de Daniel n'est pas finie, elle n'est qu'à la moitié là, eh bien on s'aperçoit que Dieu est capable de faire de grandes choses. Il a fait pour nous de grandes choses. Avec Dieu nous ferons des exploits. Ouais, c'est Dieu qui fait les exploits, c'est pas nous. Le deuxième miracle, deuxième don, celui qu'on appelle dans 1 Corinthiens le don du miracle, c'est une opération spectaculaire. Et c'est vrai que pour Daniel, silence, paix, sérénité, maintenant l'opération est spectaculaire, parce que quand vous voyez des lions qui ne bougent pas, ils n'ont pas ouvert la gueule, ils ne se sont pas là précipités vers le condamné. C'est une opération donc spectaculaire, miraculeuse, mais qui est contraire aux lois naturelles. Vous savez que la loi naturelle chez un lion, c'est de manger, c'est de déchirer, de tuer. Hein. C'est un félin, tout simplement. C'est sa nature, c'est son instinct. C'est comme ça. Un lion, si vous lui donnez pas à manger, vous savez, il va se servir. Hein. Pas de problème, hein. Et tous les carnivores d'ailleurs. Hein. Tous les carnivores. Donc, c'est quelque chose qui est contraire à la loi naturelle et qui agit sur la matière et sur notre environnement. On avait cité dimanche dernier l'histoire de ce miracle, quand Jésus est dans la barque, il y a la tempête. Ça, c'est un miracle qui va agir sur la tempête et l'ouragan. Le vent s'est calmé, la mer s'est apaisée, les vagues ont disparu, et il nous est dit que, tout de suite, c'est dans un évangile, je ne sais plus, je crois que c'est Marc, il nous est dit, mais au moment où tout s'est calmé, il touchait le rivage d'en face. Hé, comment expliquer ça? C'est à vivre, ça ne s'explique pas. Un miracle ne s'explique pas, mais nous le vivons. Et nous pouvons, encore aujourd'hui, tant dans le don de la foi que dans le don du miracle, nous pouvons faire des expériences extraordinaires. Ah ouais, ça c'est formidable, sur la matière et la nature. Vous l'avez vu, nous l'avons lu, c'est Dieu qui délivre et qui sauve, qui fait des signes et des prodiges sur la terre, dans le ciel. C'est lui qui a délivré Daniel des lions. Et quand on connaît, je le répète, quand on connaît la nature d'un lion ou de n'importe quel autre animal de ce type, ce ne peut être qu'un miracle. Absolument. Quand Paul s'est fait mordre par la vipère, il l'a secoué. Paul s'est pas agité, il n'a pas dit « Oh là, je vais un sérum Non, ça n'existait pas à l'époque. Mais il l'a secoué dans le feu, la vipère est tombée, et les gens étaient là, les gens de Malte, ils étaient médusés, ils se disaient « Mais il va mourir quand ?» Il était là, il continuait à entretenir là ce qu'il y avait à faire, mais il était dans le calme, Daniel était dans le calme, Paul était dans le calme, et c'est bien la grande différence, pas d'affolement, c'est la paix de Dieu. À ce moment-là, la conclusion pourrait être la suivante. C'est l'ironie du sort. Et on pourrait peut-être ajourner l'ironie du sortilège. J'ai regardé ce que ça voulait dire, sortilège. Ça vient de toutes les pratiques de magie, toutes sortes de choses qui sont fait dans l'intention de nuire, de détruire, de tuer, etc., des sortilèges. C'est pas un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, hein. Mais cette ironie, eh ben c'est le retournement de la situation que nous avons finalement dans notre texte. À ce moment-là, verset 24, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, vous en souvenez, soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que bon, faut... Mais bon, à l'époque, c'est tout le monde y passait. Hein. C'est terrible, hein. Terrible. Hein. Alors vous oubliez la deuxième partie. Hein. dans la fosse aux lions, et avant qu'il soit parvenu au fond de la fosse, pour bien montrer que Daniel était arrivé au fond de la fosse, mais que les lions ne l'ont pas touché, avant qu'il soit arrivé au fond de la fosse, les lions se saisirent et brisèrent tous leurs os. Imaginez-vous un peu le travail. Ah, il était temps que le repas arrive, se sont dit les lions. Et là, au lieu d'en avoir un, ils en ont dû en avoir plusieurs. Le roi est généreux, et voilà. Mais je voudrais quand même terminer avec cette pensée. Dans un psaume, il est dit ceci, et ça je peux vous dire que c'est vrai. C'est vrai parce que plusieurs d'entre nous, nous l'avons vécu. Et peut-être le revivrons-nous encore. Écoutez bien, je vous donnerai la situation après. Mais au chapitre 7 du psaume, il est dit ceci. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom du Très-Haut. Eh oui! Vous savez, quand on est mal pris dans la vie, on a toujours des faux amis. C'est vrai. On a quelquefois des gens qui nous jalousent, qui nous envient, qui... voilà, c'est comme ça. Mais ça fait partie de la nature humaine. Je pense que bon, ça c'est... Moi, je le dis et je le redis encore, il nous est arrivé toutes sortes de mésaventures, récentes ou plus anciennes. Mais une chose qui est certaine, je me suis toujours interdit d'en vouloir aux gens qui, quelquefois, ont fait du mal. Je me dis derrière, ils sont pas tout seuls. Et quand on veut véritablement mener le bon combat, faut pas s'en prendre aux gens. Parce que Jésus nous dit véritablement que dans le sermon sur la montagne, faut pas toucher, hein. Parce que celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Alors c'est pas la peine d'y toucher à ça, hein. Et puis il nous est dit de supporter. Il nous est dit d'endurer. Il nous est dit même d'aimer nos ennemis. Ça c'est une chose. Et je crois que la meilleure stratégie c'est de faire comme Daniel. Quand il a vu toute cette bande de scélérats qui étaient autour de lui et qui voulaient sa peau, qui voulaient sa place et surtout qui voulaient lui prendre la vie, ben vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas été pleurniché dans le palais en disant « ils m'ont fait du mal et puis ceci et cela ». Vous connaissez un peu la chanson, hein? Non, il s'est tourné vers Dieu et il a dit « Seigneur, tu me conduis et tu me donnes la véritable attitude ». Et c'est ce qui lui a permis, parce qu'il eut confiance en son Dieu, de vivre une chose extraordinaire, que tomber sous les crocs d'un lion et qu'il ne lui fasse aucun mal, ça faut le faire. Bravo, hein? Ça, c'est quelque chose. Pourquoi cette histoire nous est-elle rappelée aujourd'hui? C'est une histoire, c'est une légende. Moi, je ne tiens pas la parole de Dieu pour des contes et une légende, hein? Mais c'est une réalité que nous pouvons vivre. Mais seulement celui qui a la foi, donc le croyant, le chrétien, le chrétien né de nouveau, je dirais même celui qui est rempli du Saint-Esprit, vit ces choses. Et là, on voit la grande différence qu'il peut y avoir, hein? Le méchant prépare une fosse. Il la creuse en se frottant les mains, en disant « on va bien la voir ». Et puis finalement, il ne sait pas que c'est pour lui qu'il est en train de creuser la fosse. Et ça, je peux vous dire, à plusieurs reprises, je l'ai vu, ça ne manque pas d'arriver. Ça ne manquera jamais d'arriver. Mais il nous faut de la patience. Il nous faut du support. Et il nous faut laisser Dieu agir. Parce que tant qu'on veut y mettre les mains, ça ne marchera jamais. Alors le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse. On a vu le résultat. C'est quelque chose que cette histoire de Daniel. Et elle nous a été donnée pour que tous ceux qui passent par des moments difficiles, par des temps d'hostilité, par des temps d'opposition, par des temps où quelquefois ça va beaucoup plus loin que de l'opposition et de l'hostilité, de la persécution ou des tribulations, ça va encore beaucoup plus loin que ça, mais une chose qui faut savoir, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'histoire de Daniel, c'est pour nous montrer qu'il est toujours le même. Je termine. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je dirais, je paraphraserais, il m'a gardé au cœur même de la fosse, et dans le feu, il m'a gardé dans la paix, il m'a gardé dans la sérénité. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Il y en avait deux qui étaient joyeux, il y avait Daniel et puis le roi. Ils s'étaient retrouvés. et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Les lionceaux, verset 11, éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous avez remarqué, il est question de lionceaux là, aussi, hein. Avide. Mais une chose qui est certaine, c'est que notre Dieu est un Dieu de délivrance. C'est lui qui a tout pouvoir et je lui laisse. Et nous apprenons à lui laisser tout pouvoir sur notre vie. Et vous savez, entre les mains de Dieu, nous sommes en sécurité. Entre ses mains, je ne crains rien. Que Dieu nous bénisse. On va prier si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce ne sont que des histoires merveilleuses, mais des histoires vécues, des histoires de toujours, des histoires des hommes d'hier, des hommes d'aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, le dire encore et le proclamer parce que ça peut être l'histoire de demain pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Oui, Seigneur, cette parole, elle est belle. Que tu envoies ton ange. Non pas qu'il y ait des anges gardiens, mais que l'ange de l'Éternel, celui qui aujourd'hui est incarné à travers la personne de Jésus, celui qui a dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors Seigneur, nous croyons, Père éternel, que tout cela s'est fait pour notre instruction. C'est fait pour nous rafraîchir la mémoire, pour nous rappeler, Seigneur, que notre Dieu règne encore. Et quand bien même le monde serait renversé, quand bien même le monde, eh bien là, se précipite ou se précipiterait dans la folie destructrice, eh bien, nous pouvons dire qu'en effet, Seigneur Jésus, nous sommes en paix en toi. Et nous te remercions parce que nous croyons que les manifestations de l'Esprit de Dieu sont encore pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci pour le don de foi. Merci pour le don du miracle. Merci, Seigneur, pour tes interventions en faveur de ceux qui espèrent en toi. Nous voulons te rendre grâce et te remercier. Scelle cette parole dans nos cœurs. Et que celui qui traverse peut-être, ou celle qui traverse un moment difficile, un moment où la nature ne peut plus rien dire et rien faire, un moment, Seigneur, qui nous surpasse et que là nous ne trouvons aucune issue parce qu'il n'y en a pas, eh bien, Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que lorsque l'homme dit « c'est fini », toi tu dis « bien tout commence ou tout recommence et tout repart ». Merci, Seigneur, pour cet encouragement et cette merveilleuse espérance. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.